Le choix de lecture de Frédéric Bruyas, mise en musique par Philippe Fest. Aujourd'hui, au sud de la Fente de Jack London.
Le vieux San Francisco se trouvait partagé en deux moitiés par la Fente. On appelait ainsi une double fissure métallique qui courait tout au long du centre de Market Street et d'où s'élevait le bourdonnement incessant du câble sans fin auquel on attachait à volonté les tramways et qui les tirait dans les deux sens. Au nord de celle-ci se dressaient les théâtres, les hôtels, les grands magasins, les banques, les solides et respectables maisons de commerce. Au sud s'entassaient les usines, les taudis, les blanchisseries, les ateliers et les logements de la classe ouvrière. Cette fente était la métaphore qui exprimait le clivage de la société en deux classes, et nul homme ne l'enjambait, à l'aller comme au retour, plus allègrement que Freddie Drummond. Il s'appliquait à vivre dans les deux mondes, et il réussissait remarquablement bien dans l'un comme dans l'autre. Freddie Drummond était professeur au département de sociologie de l'Université de Californie. Et c'est en cette qualité que, franchissant pour la première fois la fente, il vécut 6 mois dans le grand ghetto du travail. Au début, Freddie Drummond trouva qu'il était monstrueusement difficile de vivre parmi les ouvriers. Il n'était pas habitué à leur manière, ni eux bien entendu aux siennes. On se méfiait de lui. Dépourvu d'antécédents, il ne pouvait parler de précédents emplois. Ses mains soignées et son extraordinaire politesse paraissaient suspectes. On l'accepta d'abord, de manière très provisoire, comme une espèce de phénomène. Alors, commençant à mieux assumer son rôle, il se glissa insensiblement dans la peau du personnage qu'il souhaitait jouer, à savoir celui d'un homme qui avait connu des jours meilleurs, bien meilleurs, mais pour qui la chance avait tourné. En 6 mois, il passa par tant de postes qu'il finit par ressembler à un authentique ouvrier. Linguiste né, il prit des notes, étudia scientifiquement le slang, l'argot des travailleurs, et finit par le parler de manière satisfaisante. Ce langage lui permit aussi de mieux comprendre leur manière de penser et de rassembler assez de documentation pour un chapitre d'un livre qu'il voulait intituler « Psychologie de la classe ouvrière ». Il était très jeune pour un docteur en sociologie, 27 ans seulement, et il ne les paraissait pas. C'était un grand costaud, au visage lisse et au caractère facile, d'allure nette, simple et saine, qui laissait le souvenir d'un splendide athlète, très cultivé, mais un peu froid et inhibé. Il faisait tout très bien, trop bien. Son apparence et son attitude étaient d'une correction exemplaire. Sa poignée de main était bien ferme, ses yeux bleus, plutôt froids, exprimaient une conviction sincère. Sa voix, claire, ferme et virile, était plaisante à écouter. Son seul défaut était son excessive réserve. Il ne se laissait jamais aller. À mesure que le temps s'écoulait, Freddie Drummond prit l'habitude de traverser plus fréquemment Market Street pour aller se perdre au sud de la Fente. Il y passait ses vacances d'été et d'hiver et, dès qu'il disposait d'une semaine ou d'un simple week-end, les heures qu'il passait là lui paraissaient plus profitables et plus amusantes. Il y glanait tant d'observations. Son livre, « Les masses et leurs maîtres », devint un classique dans les universités américaines. Quelque part dans sa nature se dissimulait un étrange penchant, une bizarrerie qui provenait peut-être d'une réaction contre son milieu et son éducation, ou alors contre ses ancêtres qui, de génération en génération, s'étaient voués à l'étude. En tout cas, il trouvait du plaisir à descendre dans l'univers de la classe ouvrière. Dans son propre monde, on l'appelait la chambre froide. Mais dans cet autre milieu, il devenait le grand Bill Tots. Capable de fumer et de boire, de parler argot et de se battre, et d'être favorablement accueilli partout. Tout le monde aimait ce Bill-là. Et plus d'une ouvrière lui faisait des avances. Au début, il se contentait de bien jouer son rôle. Mais au fil du temps, cette simulation devint une seconde nature. Il ne jouait plus. Il aimait les saucisses et le bacon, considéré là d'où il venait comme la plus abominable des nourritures. Cet étrange dualisme qu'il avait développé était finalement très instable. Et lorsqu'il méditait assis à son bureau, il sentait que cela ne pourrait durer. Il traversait une phase transitoire et prévoyait qu'en persistant ainsi, il devrait inévitablement tomber dans un monde ou dans l'autre. Il ne pouvait jouer éternellement sur les deux tableaux. Les craintes de Freddie Drummond lui étaient inspirées par une certaine Mary Condon, présidente du syndicat international des gantières. Il l'avait aperçue pour la première fois depuis les gradins des spectateurs lors de la convention annuelle de la Fédération des travailleurs du Nord-Ouest. Comme il l'avait vue avec les yeux de Bill Tots, elle avait produit sur lui une impression très favorable. Était-ce son corps de reine, musclé et gracieux comme celui d'une panthère, ou ses yeux noirs, prodigieux, capables de s'embraser ou de rire d'amour, selon son humeur du moment? Il arriva aussi à la conclusion que, pour s'ancrer dans la personnalité de Freddie Drummond, il devait nouer des relations et des liens plus étroits avec son propre milieu. En tout cas, le moment était venu pour lui de se marier, car il sentait bien que si Freddie Drummond ne trouvait pas une compagne, Bill Tots assurément en choisirait une, oui, ce qui entraînerait des complications terribles à envisager. Voilà comment entra en scène Catherine Van Forst. Elle enseignait aussi à l'université. Et son père, le seul membre riche de la faculté, était aussi le directeur du département de philosophie. À tout point de vue, ce serait un bon mariage, conclut Freddie Drummond, lorsque leurs fiançailles furent célébrées et publiées. D'apparence froide et réservée, aristocratique et sainement conservatrice, Catherine Van Forst, bien qu'ardente à sa façon, était tout aussi inhibée que Drummond. Le mariage devait avoir lieu 2 semaines plus tard. Mais un après-midi, à San Francisco, Catherine Van Forst vint le chercher en voiture. C'était le véhicule de son frère et ils y étaient seuls avec le chauffeur. Venant de Market Street, ils avaient l'intention de négocier ce virage très serré pour prendre Jerry Street. Mais ils ignoraient ce qui se tramait dans cette rue-là. Ils avaient bien lu dans les journaux que la grève des bouchers se poursuivait avec une âpreté extraordinaire. Mais à ce moment-là, Freddie Drummond était bien loin d'y penser. N'était-il pas assis à côté de Catherine ? Un convoi de 6 camions de viande descendait Jerry Street. À côté de chaque conducteur jaune se tenait un policeman. À l'avant, à l'arrière et de chaque côté de ce cortège marchait une escorte d'une centaine de policemen qui les protégeaient. Derrière, à une distance respectable, suivait une foule ordonnée mais vociférante sur une longueur de plusieurs pâtés de maisons qui obstruait la rue d'un trottoir à l'autre. Le trust du bœuf s'efforçait de ravitailler les hôtels et, par la même occasion, de commencer à briser la grève. Freddie Drummond était assis dans la voiture, impassible, à côté de Catherine Van Forst. Mais au fond de ses yeux brillait Bill Tots. Et quelque part derrière ces yeux-là, Freddie Drummond, le sociologue raisonnable et conservateur, et Bill Tots, le syndicaliste belliqueux et fier de sa classe, s'affrontaient pour contrôler le corps qu'ils habitaient tous deux. Catherine Van Forst se sentait malade et sur le point de défaillir à la vue de la brutalité de cette lutte. Mais l'événement sensationnel et totalement inattendu qui survint ensuite eut raison de ses nausées. L'homme, assis à côté d'elle, poussa un hurlement qui n'était pas de ce monde, ni surtout de son monde, et se leva d'un bond. Catherine Van Forst tourna la tête et aperçut au bord du trottoir une femme, aux joues colorées et aux yeux noirs flamboyants, qui dévisageait avec passion celui qui, quelques minutes plus tôt, était encore Freddy Drummond. Les jaunes furent arrachés à leur siège, les traits des chevaux coupés et les animaux effrayés mis en fuite. De nombreux policemen se réfugièrent pour assurer leur sécurité, tandis que les chevaux libérés, guidés parfois par des policemen qui les montaient ou se démenaient pour les tenir par la bride, traversaient, galopaient sur le trottoir de l'autre côté de l'encombrement et s'échappaient par Market Street. Catherine Van Forst entendit de nouveau cette femme qui, revenue sur le bord du trottoir, s'écriait en guise d'avertissement « Tire-toi, Bill ! C'est le moment ! Fiche le camp !» La police était temporairement balayée. Bill Todd sauta sur le trottoir et se fraya un chemin jusqu'à la femme. Catherine Van Forst la vit lui jeter les bras autour de son cou et l'embrasser sur les lèvres. Et elle regarda avec curiosité son fiancé s'éloigner, un bras autour de la taille de cet inconnu. Ils causaient et riaient ensemble et faisaient preuve d'une volubilité et d'un abandon dont elle ne l'aurait jamais cru capable. La police reparut et vint à bout de l'encombrement en attendant des renforts, de nouveaux conducteurs et d'autres chevaux. La foule, son œuvre achevée, se dispersait. Catherine Van Forst distinguait encore l'homme qu'elle avait connu sous le nom de Freddy Drummond. Sa tête dominait la foule et son bras enlaçait toujours la taille de la femme. Assise dans sa voiture, attentive, elle vit le couple traverser Market Street, franchir la fente et disparaître le long de la troisième rue, dans le ghetto des travailleurs. Oh my love, it's a long way we've come. From the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from the sky, from digging in our pockets for say goodbye. These other hands have built America.
C'était la lectrice de RVR, Frédéric Brouillasse.